Chapitre 32. Des questions qu'il faut poser.
Nous devrions partir bientôt pour Colline de la Garde,
annonça Vérine, alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le ciel. Perrine leva les yeux de sa bouillie de céréales froides et son regard croisa celui de la Aes Sedai. À l'évidence, Vérine n'était pas disposée à polémiquer.
Ne va pas croire que je t'aiderai à réaliser un de tes absurdes projets. Tu es un garçon rusé. Mais n'essaie surtout pas de me rouler dans la farine. »
Leurs cuillères s'immobilisant à mi-chemin de leur bouche, Tam et Abel échangèrent des regards surpris. Jusque-là, en déduisit Perrine, ils avaient dû suivre leur propre chemin pendant que les Aes Sedai suivaient le leur. Toujours perplexes, mais sans un mot, les deux hommes recommencèrent à manger. Sa cape caméléon rangée dans sa sacoche de sel, Thomas regarda les deux villageois et Perrine avec un visage de marbre qui n'incitait pas au débat franc et ouvert. Quand il le fallait, les champions faisaient ce qui s'imposait pour que leur Aes Sedai ait les coudées franches. Vérine avait l'intention de se mêler de tout, ça tombait sous le sens. De toute façon, les Aes Sedai ne pouvaient pas s'en empêcher. Mais pour Perrine, l'avoir à l'œil était sûrement préférable à se demander sans cesse ce qu'elle fichait dans son dos. Avec les sœurs, il était parfaitement impossible de conserver sa liberté d'action, en tout cas quand elles en avaient décidé autrement. La seule solution était d'essayer de se servir d'elles pendant qu'elles vous manipulaient. Et bien entendu, il fallait rester vigilant et prier pour être capable de leur sauter des mains si elles décidaient de vous enfoncer tête la première, comme un furet, dans la tanière d'un lapin. Car de temps en temps, la tanière se révélait être le labyrinthe souterrain d'un blaireau, un adversaire très dangereux pour un furet.
« Vous seriez la bienvenue aussi !»
dit Perrine à Alana. Le regard glacial de la Aes Sedai dissuada Perrine de continuer dans cette voie. Ayant négligé sa portion de bouillie, elle se tenait devant une fenêtre et regardait à travers l'entrelac de lierre. Approuvait-elle le plan du jeune homme, qui consistait à aller d'abord jeter un coup d'œil au camp? C'était impossible à dire, car elle était des plus imprévisibles. En principe, les Aes Sedai devaient être l'incarnation de la sérénité. C'était le cas d'Alana, sauf quand des éclairs de colère ou des traits d'humour venaient tout remettre en question l'espace de quelques secondes. Parfois, quand elle regardait Perrine, il aurait presque cru qu'elle l'admirait, si une telle aberration avait été possible. À d'autres occasions, il avait le sentiment d'être un mécanisme compliqué qu'elle bouillait d'envie de démonter, juste pour voir comment il fonctionnait. Vérine était bien plus facile à vivre. Inexpressive la plupart du temps, elle pouvait parfois se révéler énervante, mais avec elle, Perrine ne se demandait jamais si elle serait capable de remettre les pièces ensemble dans le bon ordre après le démontage. Perrine aurait donné cher pour pouvoir laisser Faye ici. Ça n'aurait pas été un abandon, puisqu'il visait exclusivement à la protéger des capes blanches. Mais à voir briller ses yeux, et à la manière dont elle serrait les dents, il estima que c'était un combat perdu d'avance.
« J'ai très envie de voir un peu ton pays. Mon père élève des moutons. »
Message reçu. Sauf si Perrine l'attachait, il n'était pas question qu'elle reste en arrière. Un moment, le jeune homme envisagea sérieusement de la ligoter. Mais les fils de la lumière, aujourd'hui, ne représentaient pas un grand danger, puisqu'il s'agissait seulement d'une mission de reconnaissance.
« Je croyais qu'il était marchand. »«
Et éleveur. Ça n'est pas incompatible. »
Fayle rougit légèrement. Son père était peut-être un humble fermier, pas du tout un marchand prospère. Mais où était l'intérêt de mentir? Nulle part. Sauf que si c'était le désir de Fayle, Perrine ne voyait pas pourquoi il l'aurait contrarié. Gênée ou non, la jeune femme semblait tout aussi déterminée. Soudain, Perrine se remémora les conseils de Maître Cotton.
« Je doute que tu vois grand-chose d'intéressant. Certaines fermes sont en pleine tonte, j'imagine. Mais ton père doit s'y prendre exactement comme nous. Quoi qu'il en soit, ta compagnie me ravira. »
L'hébétude de Fayle, quand elle comprit qu'il n'y aurait pas de querelle, valait presque tout le souci qu'il se ferait encore pour elle. La méthode d'Abel aurait mérité d'être brevetée. Avec Loyal, les choses ne furent pas si simples.
« Mais je veux venir !»
s'écria-t-il, dès que Perrine l'eut informé que ce ne serait pas possible.
« Je suis là pour t'aider. »«
Vous ne viendrez pas, Maître Loyal, »
dit Abel.
« Parce que nous devons tout faire pour ne pas attirer l'attention, »
précisa Tam. Les oreilles en berne, l'augier se laissa entraîner à l'autre bout de la salle par Perrine. Voyant que sa tête frôlait les poutres, le jeune homme finit par conseiller à son ami de se baisser. Vu de loin, cette petite scène passerait pour une tentative de consoler l'augier après son éviction. Bien entendu, il s'agissait de toute autre chose.
« Je veux que tu surveilles Alana, »
souffla Perrine. Loyal sursauta. Le prenant par la manche, Perrine continua à sourire comme un idiot.
« Détends-toi, Loyal. Rigole même un peu. On ne parle de rien d'important, d'accord ?»
Logier eut un pâle sourire qui valait toujours mieux que rien.
« Les Aes Sedai agissent toujours pour des raisons très personnelles, Loyal. »
Souvent, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on imaginait, et ça pouvait être très surprenant.
« Qui sait ce qu'elle peut mijoter ? Depuis mon retour, j'ai eu assez de surprises. Pas question qu'elle en ajoute. Je ne te demande pas de la neutraliser, mais seulement de noter tout ce qui sortira de l'ordinaire. »«
Merci du cadeau. »
Marmonna Loyal, les oreilles plus que frémissantes.
« Tu ne crois pas qu'il vaut mieux laisser les Aes Sedai agir à leur guise ?»
Pour un Logier, c'était facile à dire. Dans un sanctuaire, les sœurs n'avaient pas la possibilité de canaliser le pouvoir. Sous le regard de Perrine, Loyal finit par craquer.
« Si tu pensais ça, tu ne me chargerais pas de l'espionner. Bon, c'est d'accord. Au moins, avec toi, on ne s'ennuie jamais. »
Loyal se redressa, passa un index démesuré sous son nez et s'adressa aux autres.
« Il est vrai que je risquerais d'attirer l'attention. Bon, ça va me donner une occasion de travailler à mes notes. Voilà des jours que mon livre n'avance pas. »
Vérine et Alana échangèrent un regard indéchiffrable, puis leurs yeux se braquèrent sur Perrine. Même sous la torture, ils n'auraient su dire ce qu'elle pensait. Bien entendu, les chevaux de bas resteraient en arrière. Leur présence aurait probablement éveillé l'intérêt, car elle impliquait un long voyage. Même en des temps plus normaux, les gens de Deux-Rivières ne s'éloignaient jamais de chez eux. En regardant les éclaireurs sceller leurs montures, Alana ne put s'empêcher de sourire. Les chevaux de bas et leurs paniers d'osier, devait-elle penser non sans raison, liaient Perrine à l'ancien hôpital, donc à elle-même et à Vérine. En réalité, elle aurait pu avoir une sacrée surprise. Depuis son départ de Champ des Mondes, plus d'un an auparavant, le jeune homme avait bien souvent dû se contenter d'une sacoche de sel en guise de bagage, quand il n'avait pas dû se limiter à sa bourse et aux poches de sa veste. Alors qu'il se redressait, après avoir fermé la sangle de sel de trotteur, le jeune homme sursauta. Vérine le regardait avec une expression presque malicieuse, rien qui fût conforme à l'éternelle distraction des sœurs Marron, comme si elle savait ce qu'il pensait et s'en amusait secrètement. Quand Fayle lui faisait ce coup-là, le jeune homme détestait déjà ça. Mais venant d'une Aes Sedai, c'était 100 fois pire. Cela dit, le marteau attaché à ses sacoches de sel semblait intriguer Vérine. À l'évidence, quelque chose lui échappait, et il s'en réjouissait. Mais cette fascination ne laissait pas de l'inquiéter. Pourquoi une Aes Sedai aurait-elle été ainsi hypnotisée par un vulgaire outil? Quand il ne fallait pas équiper les chevaux de bas, se préparer au départ prenait très peu de temps. Le hongre marron de Vérine n'avait rien pour attirer le regard, exactement comme la tenue de sa cavalière. Mais pour un œil exercé, le poitrail puissant et la croupe musclée laissaient penser que ce cheval était au moins aussi endurant que l'étalon gris de Thomas, pourtant bien plus impressionnant. Trotteur hennit de façon fort peu amène à l'intention de l'autre étalon. Pour le calmer, Perrine lui flatta l'encolure. Plus discipliné, le cheval du champion aurait été disposé à se battre si son maître l'y avait autorisé. Mais le champion, utilisant autant ses genoux que les rênes, contrôlait parfaitement la monture avec laquelle il paraissait ne faire qu'un. Peu habitué au destrier, Maître Cotton étudia avec intérêt celui de Thomas. En revanche, il lui suffit d'un coup d'œil pour mesurer toutes les qualités du hongre de Vérine. Comptant parmi les meilleurs experts en équidés de Deux-Rivières, c'était sans doute lui qui avait choisi les deux spécimens que Tam et lui montaient. Moins grand que les autres chevaux de l'expédition, ces animaux solides et puissants promettaient des performances en matière tant de vitesse que d'endurance. Les trois aïels ouvrant la marche, la petite colonne s'ébranla. Gaol, Chiad et Bane commencèrent sur un rythme élevé qui les amena à disparaître très rapidement dans les denses profondeurs du bois, déjà baignées par la lumière du soleil. De temps en temps, une tache ocre apparaissait un court instant entre les arbres. Une précaution prise par les aïels, afin que leurs compagnons sachent à tout moment où ils étaient. Tam et Abel prirent la tête de la colonne, Perrine et Fayle les suivant, tandis que Vérine et Thomas se chargeaient de composer l'arrière-garde. Perrine aurait préféré ne pas avoir la Aes Sedai derrière lui. Sentir son regard peser sur sa nuque ou entre ses omoplates ne l'enchantait vraiment pas. Savait-elle au sujet de son lien avec les loups? Bien que ça n'ait rien de plaisant, c'était très possible, puisque les sœurs Marron se piquaient d'avoir d'antiques connaissances qui dépassaient les membres des autres ajats. Pourrait-elle lui dire ce qu'il fallait faire pour éviter de perdre son humanité au contact des loups? S'il ne parvenait pas à retrouver Elias Matchera, elle pouvait être sa meilleure chance de s'en tirer indemne, à condition de lui faire aveuglément confiance. À coup sûr, Vérine était prête à mobiliser toute sa science pour aider la Tour Blanche et, probablement dans ce cas, pour soutenir Rand. Hélas, aider Rand n'aurait peut-être pas le résultat que Perrine désirait obtenir dans l'immédiat. Au fond, Tout aurait été tellement plus simple en l'absence d'Aes Sedai. Le groupe chevaucha dans un silence à peine troublé par les bruits de la forêt. Un concours permanent de créations sonores entre les écureuils, les pivers et les oiseaux chanteurs.
« Elle ne te fera pas de mal !»
souffla soudain Fail en tournant la tête vers son compagnon. La douceur de sa voix contrastait vivement avec la détermination de son regard sombre. Perrine en scia de stupeur. Elle voulait le protéger d'une sœur? Décidément, il ne la comprendrait jamais. Pas plus qu'il ne saurait un jour anticiper sa contradiction suivante. Parfois, sa compagne le déconcertait au moins autant que les Aes Sedai. La petite colonne sortit du bois de l'ouest à une lieue et demie environ de Champ des Mondes. À l'est, le soleil dépassait à présent la cime des arbres. Des bosquets de pins, de chênes et de fougères séparaient les cavaliers des champs de céréales, de tabac et de foin délimités par des haies. Bizarrement, il n'y avait pas âme qui vive aux alentours, et aucun filet de fumée ne sortait des cheminées de la ferme. Perrine connaissait très bien les gens qui vivaient là. Les Al Laura occupaient deux des grands bâtiments, les Barresterés se partageant les autres. Des gens durs à la peine, ces fermiers. Si les maisons n'avaient pas été vides, nul doute qu'ils auraient été depuis longtemps au travail. Campé près d'un bosquet, Gaul fit un signe de la main, puis il disparut entre les arbres. Perrine talonna Trotteur pour qu'il vienne se placer entre les montures de Tam et d'Abel.
« On ne devrait pas rester aussi longtemps que possible à couvert, si cavaliers ne passeront pas inaperçus. »«
Il n'y a pas grand monde pour nous remarquer, mon garçon, »
répondit Maître Altor.
« En tout cas, tant que nous resterons à l'écart de la route du Nord, toutes les fermes trop proches du bois ont été abandonnées. En outre, les gens ne se déplacent plus seuls dès qu'ils s'éloignent du pas de leur porte. » 10 cavaliers n'intrigueraient personne par les temps qui courent, même s'il est plus fréquent de voyager en chariot.
Par cet itinéraire, nous n'atteindrons pas Colline de la Garde avant la tombée de la nuit. »
intervint Maître Cotton.
Passer par les bois allongerait encore le voyage. Bien sûr, nous irions encore plus vite en empruntant la route, mais le risque de rencontrer des capes blanches serait trop élevé, sans parler des délateurs en puissance qui nous vendraient pour toucher la récompense. « C'est un danger, c'est vrai. »
concéda Tam.
« Mais nous avons heureusement des amis dans le coin. » Nous avons prévu de marquer une pause à la ferme de Jack Alsin, vers midi, afin de laisser souffler les chevaux et de nous dégourdir les jambes. En ne traînant pas, nous devrions atteindre Colline de la Garde un peu avant qu'il fasse nuit noire.
« De toute façon, »
dit distraitement Perrine,
« il y aura toujours assez de lumière. »
Pour lui, en tout cas. Se retournant sur sa selle, Perrine jeta un coup d'œil aux fermes. Elles étaient abandonnées, peut-être, mais pas incendiées ni mises à sac, pour autant qu'on pouvait en juger de si loin. Des rideaux pendaient aux fenêtres intactes. Or, les Trollocs adoraient dévaster et détruire, et les maisons vides comptaient parmi leurs cibles préférées. Un autre indice allait dans le sens d'un simple abandon. Dans les champs, les mauvaises herbes prospéraient, mais la terre n'avait pas été piétinée.
« Les Trollocs ont-ils attaqué directement Champ des Mondes ?»«
Non, »
répondit Abel, sans dissimuler son soulagement.
« Et s'ils avaient essayé, ils auraient été bien reçus. » Depuis cette terrible nuit de l'hiver, les gens sont sur leur garde. Près de chaque porte, on trouve un arc, des lances et d'autres armes. N'oublions pas non plus les patrouilles des Fils de la Lumière qui passent tous les deux ou trois jours par le village. Je déteste le reconnaître, mais ça tient les monstres à l'écart.
Vous avez une idée du nombre de Trollocs présents sur le territoire?
Un seul serait déjà de trop,
marmonna Abel.
Quelque chose comme 200,
répondit Tam.
Peut-être plus. Probablement plus, même.
Maître Cotton parut surpris.
Réfléchis, Abel. Je ne sais pas combien de monstres les Fils de la Lumière ont tués, mais les champions affirment en avoir abattu près de 50 avec l'aide des Aes Sedai. Plus 2 blafards. Malgré ça, les attaques contre les fermes isolées ont continué. Donc, il doit y avoir plus de 200 Trollocs, selon moi.
Dans ce cas, pourquoi n'ont-ils pas attaqué Champ des Mondes?
Demanda Perrine.
Si 200 ou 300 monstres attaquaient de nuit, ils auraient le temps de raser et de brûler le village avant que les Fils de la Lumière, quand on est à Colline de la Garde, en aient entendu parler. Et frapper Promenade de Deven serait encore plus facile, puisque les Capes Blanches ne s'aventurent jamais jusque-là.
« La chance, »
marmonna Abel. Mais il ne semblait pas convaincu.
« Oui, il n'y a pas d'autre explication. Nous avons eu de la chance. Où veux-tu en venir, fiston ?»«
Je peux vous le dire. »
annonça Fail en arrivant à la hauteur des trois hommes.
« Je pense qu'il y a une raison à tout ça. »
Hirondelle dominant de beaucoup les deux chevaux typiques de la région, la jeune femme pouvait regarder les deux hommes dans les yeux, et elle ne se priva pas d'afficher sa détermination.
« Au Saldaea, j'ai vu les conséquences d'un raid de Trolloc. Ils dévastent ce qu'ils ne brûlent pas, tuent ou capturent les gens et les animaux de ferme. Bref, il n'épargne rien, ni personne. Les mauvaises années, des villages entiers ont été rayés de la carte. Les Trollocs cherchent le maillon faible, l'endroit où ils trouveront le plus de proies. Mon père...
Fail se mordit la lèvre inférieure, respira à fond et reprit.
Perrine voit ce que vous auriez dû voir.
La jeune femme sourit à son compagnon.
S'ils n'ont pas attaqué les villages, c'est pour une bonne raison.
J'ai eu cette idée,
concéda Tam.
Mais sans trouver la raison en question. En attendant, la chance est une explication comme une autre.
Et si c'était un piège?
Demanda Vérine, qui venait de rejoindre les quatre cavaliers. Thomas s'était laissé décrocher. Tel un éclaireur à Yale, il sondait le terrain, sans oublier de lever régulièrement les yeux au cas où un corbeau se montrerait. Vérine regarda tour à tour Perrine et les deux villageois.
Des rumeurs parlant de Trollocs et de pillages ont pour vocation d'attirer l'attention sur deux rivières. Pour parer la menace, Andorre et d'autres pays pourraient décider d'envoyer des troupes. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faudrait que les Fils de la Lumière laissent filtrer les nouvelles. Ce n'est pas dans leur intérêt, parce que les gardes de Morgaz, s'ils venaient ici, seraient sûrement très mécontents de tomber sur tant de capes blanches. Je parie que ça leur déplairait autant que la présence des Trollocs.
« La guerre, » dit Abel.
« La situation est déjà très grave, mais vous évoquez la possibilité qu'un conflit éclate. »«
Oui, c'est bien possible, »
fit Vérine, non sans quelque suffisance.
« Bien possible. »
Plissant pensivement le front, elle sortit de sa sacoche de ceinture une plume à pointe d'acier et un carnet relié en tissu. Puis elle ouvrit la petite poche de cuir également attachée à sa ceinture et en tira un encrier et un flacon de sable. Bien que ce fût très difficile sur le dos d'un cheval, elle se mit à écrire, essuyant de temps en temps sa plume sur sa manche. On aurait juré qu'elle n'avait pas conscience d'avoir jeté un froid en évoquant la guerre. Et c'était peut-être bien le cas.
« La guerre, la guerre !»
souffla plusieurs fois Abel, toujours sous le choc. Le regard mélancolique, Fail posa une main sur le bras de Perrine. Tam Altor se contenta d'un grognement étouffé. D'après ce qu'avait entendu dire Perrine, il avait participé à une guerre. Nul ne savait pourquoi et encore moins où, sinon que ce n'était pas à Deux-Rivières. Parti dans sa prime jeunesse, il était revenu des années plus tard avec une femme et un fils nommé Rand. Très peu de gens du territoire s'exilaient ainsi. Sans ce que leur racontaient les colporteurs, les marchands, les gardes du corps ou les conducteurs de chariots, les villageois n'auraient su dire ce qu'était exactement une guerre. Perrine, lui, en avait vu une sur la pointe d'Ottomane. Abel parlait d'or. La situation n'était pas reluisante, mais une guerre serait 100 fois pire. Le jeune homme ne se laissa pas perturber. Vérine avait peut-être raison, mais qui pouvait dire si elle n'entendait pas simplement mettre un terme à leurs spéculations? Si les attaques des Trollocs contre Deux-Rivières étaient un piège, la proie ne pouvait être que Rand, et les Aes Sedai devaient en être informés. C'était un des problèmes avec les sœurs. Cet art de jouer avec les si et les peut-être, jusqu'à ce que leur interlocuteur se convainque tout seul qu'elle lui avait affirmé ce qu'elle s'était en réalité contentée de suggérer. Eh bien, si les Trollocs, ou plutôt la personne qui les avait envoyés, probablement un des rejetés, ambitionnaient de piéger Rand, ils allaient devoir se contenter de Perrine. Un banal forgeron en lieu et place du dragon réincarné, et un forgeron décidé à ne pas se laisser avoir. Toute la matinée, la petite colonne avança en silence. Dans cette région, les fermes très clairsemées étaient au minimum distantes d'un quart de lieue et souvent plus. Toutes celles que croisèrent les voyageurs étaient abandonnées, les champs envahis de mauvaises herbes et les bâtiments souvent ouverts aux quatre vents. Une seule avait été brûlée. Il n'en restait plus rien, à part quelques cheminées, désormais semblables à des doigts de pierre noirs de suie. Les fermiers qui avaient vécu puis étaient morts en ces lieux, les Aiélin, des cousins de la famille de Chandemonde, avaient été brûlés non loin d'un bosquet de poiriers, à l'écart de leur maison. Détail horrible, on n'avait retrouvé que des fragments de cadavres. Abel consentait à en parler quand Perrine le bombarda de questions. Tam, lui, n'avait pas dit un mot. Les deux hommes voulaient-ils ménager Perrine? C'était peine perdue, car ils savaient tout du régime alimentaire des Trollocs, qui se régalaient d'absolument toutes les viandes. Le jeune homme caressa distraitement sa hache jusqu'à ce que Fail lui saisisse le poignet au vol. Pour une raison qui le dépassait, elle semblait très troublée. Pourtant, il aurait juré qu'elle en savait long sur les Trollocs. Sauf quand ils avaient décidé d'être vus, les Aiel réussirent à rester invisibles même entre les bosquets. Lorsque Tam bifurqua vers l'est, Gaol et les deux promises suivirent le mouvement. Comme Abel l'avait prévu, la colonne atteignit vers midi la ferme des Halcines. La seule visible dans un rayon de plusieurs lieues, même si des filets de fumée, à l'est et au nord, laissait deviner la présence d'habitations. Pourquoi ces fermiers s'accrochaient-ils ainsi à leur exploitation isolée? Si les Trollocs attaquaient, leur seule chance était que des capes blanches patrouillent par hasard dans le secteur. Alors que la ferme était encore assez loin devant les voyageurs, Tam tira sur les rênes de sa monture et fit signe aux aïels d'approcher. Quand ce fut fait, il leur suggéra de se trouver un coin où attendre pendant que les cavaliers seraient chez Jack Alcine.
« Ces braves gens ne diront rien sur nous, »
expliqua le père de Rand.
« S'ils vous voient, ils ne pourront pas tenir leur langue. Même avec la meilleure volonté du monde. »
Une façon plutôt délicate de présenter les choses, car les aïels avaient vraiment de quoi faire peur avec leur étrange tenue et leur lance. Sans compter le choc de découvrir deux guerrières dans le lot. Un lapin pendait à la ceinture de chacun des aïels. Tandis qu'ils jouaient les éclaireurs, où avaient-ils trouvé le temps de chasser? Et alors qu'ils marchaient, comment pouvaient-ils paraître moins fatigués que les chevaux?
« Bonne idée, »
dit Gaul.
« Je vais trouver un coin où je pourrai me préparer un repas digne de ce nom, en vous regardant gagner la ferme. »
Se détournant, il fila comme une flèche. Après avoir échangé des regards interloqués, Dane et Shiad le suivirent.
« Ils ne sont pas ensemble ?»
demanda le père de Matt.
« C'est une très longue histoire, »
éluda Perrine. En toute franchise, il se voyait mal dire à Maître Cotton que Shiad et Gaul pouvaient décider de s'entretuer à n'importe quel moment. N'était le serment de l'eau dont lui avait parlé le guerrier. Un jour, il faudrait qu'il pense à lui demander ce que c'était. La ferme des Alcine, selon les critères de Deux-Rivières, était une grande exploitation avec ses trois grandes étables et ses cinq séchoirs à tabac. La bergerie aux murs de pierre était presque aussi grande que certains pâturages, et deux enclos bien séparés abritaient les vaches laitières tachetées et les bœufs noirs de boucherie. Des cochons s'ébattaient dans le rouge, des volailles papillonnaient un peu partout, et des oies blanches flottaient sur un étang de bonne taille. En approchant, Perrine remarqua une première bizarrerie. Sur le toit de chaume des maisons et des étables, de jeunes garçons équipés d'un arc et d'un carquois montaient la garde. Dès qu'ils virent les cavaliers, ils donnèrent l'alarme, et les femmes firent rentrer les enfants dans les maisons avant de mettre une main en visière pour tenter de voir qui étaient les visiteurs. Les hommes se réunirent dans la cour, certains brandissant un arc et d'autres une fourche ou une serpe. Ça faisait bien trop de gens, même pour une ferme de cette taille. Du regard, Perrine interrogea le père de Rand.
« Jack a recueilli la famille de son cousin Witt, dont la ferme est bien trop proche du bois de l'Ouest. Après que leur exploitation a été attaquée, Flan, Lewin et les siens sont aussi venus ici. Grâce aux capes blanches qui ont chassé les Trollocs, seules les étables de Flan ont brûlé. Mais ça l'a convaincu qu'il était temps de partir. Jack est un brave type. »
Quand les cavaliers entrèrent dans la cour, les fermiers se détendirent dès qu'ils reconnurent Tam et Abel. Voyant les adultes sourire et congratuler les voyageurs qui mettaient pied à terre, les enfants ressortirent des maisons, avec sur leurs talons des femmes en tablier blanc qui venaient à l'évidence d'une cuisine. Ici, toutes les générations étaient représentées. D'Estelle Alcine, une vénérable grand-mère aux cheveux blancs qui marchait avec une canne mais s'en servait surtout pour chasser les fâcheux qui lui barraient le chemin, à un nouveau-né encore vagissant blotti dans les bras d'une solide paysanne qui souriait de toutes ses dents. Le regard de Perrine passa très vite sur la jeune femme plus que replète. Mais il revint très vite en arrière. Vraiment? C'était Layla Dearne? Au moment où il avait quitté Deux-Rivières, Layla était une mince jeune fille capable de danser jusqu'à épuisement total des trois amis d'enfance. Aujourd'hui, seul son sourire et ses yeux n'avaient pas changé. Perrine en frissonna de la tête aux pieds. À une époque, il avait rêvé d'épouser la superbe Layla, et elle ne s'était pas montrée indifférente à son ardeur. Pour tout dire, elle s'était accrochée à cette possibilité bien plus longtemps que lui. Trop occupée par son bébé et l'énorme type qui se tenait près d'elle, son mari probablement, Layla n'accorda aucune attention à Perrine, qui s'en félicita. Après une courte réflexion, il identifia le mari, Natley Lewin. Ainsi, Layla était désormais une Lewin. Étrange, vraiment. Nat avait toujours dansé comme une enclume. Remerciant la lumière d'avoir échappé à cet avenir, Perrine chercha Fail du regard. Tenant les rênes d'hirondelle, qui lui flanquaient de petits coups de naseau dans l'épaule, la jeune femme était bien trop affairée à sourire à Will Alcine pour s'intéresser aux démonstrations d'amitié de sa monture. Cousin de Jack, venu de promenade de Devon, Will souriait lui aussi. Un gamin plutôt pas mal, ce paysan. Bien sûr, il avait un an de plus que Perrine, mais il était bien trop propre sur lui pour ne pas paraître juvénile. Quand il venait participer à un bal à Chandemonde, presque toutes les filles le regardaient en soupirant. Comme Fail en ce moment. Bon, elle ne soupirait pas, mais son regard en disait quand même long. Perrine approcha, passa un bras autour de la taille de sa compagne et posa sa main libre sur sa hanche.
« Comment ça va, Will ?»
demanda-t-il avec un sourire qu'il espéra bien imiter. Inutile d'inciter Fail à imaginer qu'il était jaloux. Parce qu'il ne l'était pas le moins du monde, pas vrai ?
« Je vais bien, Perrine. »
Fuyant le regard du revenant, le jeune fermier avisa la hache et se décomposa.
« Très bien, même. »
Sans un regard de plus pour Fail, le jeune coq de village fila se mêler à la foule qui s'était massée autour de Vérine. Fail leva les yeux sur Perrine, fila mou, puis saisit la barbe du jeune homme et la tira tout doucement.
« Perrine, 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 »
murmura-t-elle. Pas très sûre de ce qu'elle voulait dire, le jeune homme jugea plus prudent de ne pas poser la question. On eût juré qu'elle n'était pas sûre d'être en colère. Comme si tout ça l'amusait. Eh bien, il n'était pas vraiment pressé de le savoir. Comme de juste, Will ne fut pas le seul à réagir aux nouveaux yeux de Perrine. Tous les fermiers, jeunes comme vieux, hommes comme femmes, sursautèrent en découvrant la flamme jaune qui dansait dans son regard. La vénérable maîtresse Alcine lui flanqua un coup de canne dans les côtes et écarquilla les yeux de surprise quand il poussa un petit cri de douleur. À croire qu'elle ne l'avait pas jugé réel. Cela dit, personne ne fit la moindre remarque. Quand les chevaux eurent été conduits vers une des étables, Thomas se chargeant du sien, car il refusait que quiconque d'autre saisisse ses rênes, tout le monde s'entassa dans le bâtiment principal, à l'exception des sentinelles perchées sur les toits. Les Lewin et les Alcine se mélangeant dans le plus joyeux désordre, les adultes formèrent deux rangs dans la pièce commune, et les enfants que leur mère ne tenait pas au bras durent se contenter de regarder entre les jambes de leurs parents. Les visiteurs eurent droit à des chaises en jonc tressé, Vérine et Fail ayant même en sus des coussins brodés, et on leur servit une infusion noire comme du vin tant elle était forte. Bien entendu, Vérine, Thomas et Fail excitèrent la curiosité des paysans. Caquetant comme des oies, ils regardaient ces trois inconnus comme s'ils étaient des têtes couronnées, ou des artistes susceptibles de faire leur numéro à n'importe quel moment. À Deux-Rivières, les étrangers étaient toujours une grande attraction. L'épée de Thomas, par exemple, suscita des dizaines de commentaires à mi-voix, que Perrine entendit bien sûr sans difficulté. Dans la région, les armes n'étaient pas fréquentes, en tout cas avant l'arrivée des capes blanches. Certains fermiers croyaient d'ailleurs que Thomas était un fils de la lumière, et d'autres le tenaient pour un seigneur. Quand un petit garçon évoqua la possibilité qu'il s'agisse d'un champion, tous les adultes éclatèrent de rire. Dès que les invités furent installés, Jack Alcine vint se camper devant la grande cheminée de pierre. Sur le manteau, entre deux grandes coupes d'argent, une horloge égrenait le passage du temps avec une régularité de métronome. Une preuve matérielle du succès de ce fermier aux épaules carrées et aux cheveux grisonnants encore plus clairsemés que ceux de Maître Alvéré. Dès qu'il leva la main, le silence se fit d'autant plus vite que son cousin Will, qui aurait pu être son jumeau, n'était sa calvitie totale, et son hôte Flan Lewin, un grand type aux tempes argentées, incitèrent eux aussi leurs proches à se taire sans délai.
« Maîtresse Matwin, Dame Fail, »
dit Jack en s'inclinant devant chaque femme.
« Vous êtes les bienvenus ici tant que vous nous ferez l'honneur d'y rester. Mais je dois vous prévenir que c'est dangereux. La campagne n'étant pas sûre, je ne saurais trop vous conseiller de gagner Champ des Mondes ou Colline de la Garde, et d'y rester. Ces villages sont trop gros pour être menacés. Si j'allais au fond de ma pensée, je vous suggérerais de quitter Deux-Rivières, mais les Fils de la Lumière, m'a-t-on dit, interdisent à quiconque de traverser la rivière Taray. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi.
Tant d'histoires fascinantes courent dans la campagne,
dit Vérine.
Si je reste dans un village, je ne les découvrirai jamais.
Sans mentir, elle venait de laisser à croire qu'elle était à Deux-Rivières pour glaner d'anciens récits. Le même alibi que Moiraine, à une époque qui semblait terriblement lointaine à Perrine. Bien entendu, Aes Sedai avait caché sa bague au serpent dans sa bourse. Une précaution utile, même si personne, ici, n'aurait su ce que signifiait le bijou. Elisa Alcine lissa son tablier blanc, puis sourit d'un air grave à Vérine. Même si ses cheveux étaient moins gris que ceux de son mari, elle semblait plus vieille que Aes Sedai. Les choses étant ce qu'elles étaient, elle devait être persuadée que c'était le cas.
« C'est un honneur d'avoir sous notre toit une véritable érudite. Mais Jack a raison, même si je le déplore. Vous serez notre invité tant que ça vous chantera, mais ensuite, vous devrez gagner immédiatement un village. Voyager n'est pas sain de nos jours. La remarque vaut aussi pour vous, Dame Fail. Deux femmes ne devraient pas s'exposer à une attaque de Trolloc alors qu'une poignée d'hommes seulement les escorte. J'y réfléchirai, »
dit Fail, très calme.
« En tout cas, merci de votre conseil. »
Elle sirota son infusion, aussi détachée de tout que Vérine. Occupée à écrire dans son carnet, Aes Sedai releva un instant les yeux, sourit à Elisa et murmura.
« Il y a tant d'histoires à glaner dans la campagne. »
Fail accepta un gâteau au beurre que lui offrit une jeune paysanne empourprée jusqu'aux oreilles, et débordante d'admiration pour la mystérieuse aventurière qu'elle salua d'une révérence. Perrine sourit intérieurement. Dans sa tenue de soie verte, Fail avait tout d'une noble dame, y compris le port altier. Il était bien forcé de l'admettre. Quand elle était bien disposée, sa compagne avait l'allure d'une princesse. Lorsqu'elle perdait le contrôle de ses nerfs, jurant alors comme un conducteur de chariot, elle aurait été jugée vulgaire par une poissonnière de Théard. Maîtresse Alcine se tourna vers son mari et secoua la tête. À l'évidence, Fail et Véry ne se laisseraient pas convaincre.
« Vous pouvez tenter de les persuader ?»
demanda Jack à Thomas.
« Je vais où elle me dit d'aller, »
répondit le champion. Même assis avec une tasse dans la main, il semblait sur le point de dégainer son épée. Maître Alcine décida de passer à autre chose.
« Perrine, »
dit-il,
« nous t'avons presque tous rencontré un jour à Chandemonde. En un sens, nous te connaissons. Enfin, nous te connaissions avant ton départ précipité de l'an dernier. Depuis, des rumeurs troublantes ont couru à ton sujet. Mais si elles étaient vraies, Tam et Abel ne seraient pas avec toi. »
L'épouse de Flan, Adine, une femme rondelette qui semblait avoir une très haute opinion d'elle-même, jugea bon d'intervenir.
« J'ai entendu d'étranges choses aussi sur le compte de Tam et d'Abel. Sans parler de leurs fils qui sont partis avec des Aes Sedai. Une dizaine d'Aes Sedai. Avez-vous oublié que Chandemonde a brûlé jusqu'à la dernière maison? La lumière seule sait ce que ces garçons manigançaient. On raconte qu'ils ont enlevé la fille des Alvéré. »
Accablé, Flan secoua la tête et coula un regard d'excuse à Jack.
« Si tu crois ça, »
intervint Witt,
« c'est que tu es prête à tout gober. Il y a 2 semaines, j'ai parlé avec Marine Alvéré. Elle est catégorique. Sa fille est partie de son plein gré. Et il n'y avait qu'une à Aes Sedai, pas 10.
« Où veux-tu en venir, Adine ?»
demanda Elisa, les poings plaqués sur les hanches.
« Parle si tu l'oses. Je dis que je crois à ces histoires, mais des questions doivent être posées. Les fils de la lumière ne cherchent pas ces 3 garçons parce qu'ils ont tiré leur nom dans un chapeau.
Si tu écoutais au lieu de jacasser, »
riposta Elisa,
« ça nous changerait. Et tu entendrais peut-être une réponse ou 2. »
Adine tira sur le devant de sa robe pour se donner une contenance. Même si elle sembla marmonner entre ses dents, elle ne lança plus d'ânerie tonitruante.
« Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ?»
demanda Jack avec une impatience mal dissimulée.
« Non. Dans ce cas, je vais continuer ma conversation avec Perrine. Mon garçon, personne ici ne croit que tu es un suppôt des ténèbres. Même chose pour Abel et Tam. »
Jack foudroya Adine du regard. Pour calmer son épouse, Flan lui posa une main sur l'épaule. Les lèvres tremblantes, la fermière ne dit rien. Mais tout le monde devina qu'elle n'en pensait pas moins.
« Cela précisé, »
continua Jack,
« il me semble, mon garçon, que nous avons le droit de savoir pourquoi les Cas Blanches racontent des horreurs sur toi. Si on les en croit, Matt Cotton, Randall Thor et toi êtes des suppôts. »
Fail fit mine de répondre vertement, mais Perrine lui intima le silence. La voir obéir le stupéfia. Au fond, elle était peut-être vraiment malade.
« Maître Alcine, les fils de la lumière n'ont pas besoin de grand-chose. Si on ne leur fait pas de courbettes, ou si on refuse de s'écarter de leur chemin, on est vite rangé dans la catégorie des suppôts. Franchement, j'ignore pourquoi ils pensent que Rand et Matt en sont aussi. »
C'était la stricte vérité. Si les fils avaient su que Rand était le dragon réincarné, ça leur aurait amplement suffi pour le détester. Mais ils ne pouvaient pas en être informés. Quant à Matt, c'était un mystère. L'œuvre de Fain, sans doute.
« Moi, j'ai tué quelques fils, Maître Alcine. »
Bizarrement, les cris qui montèrent de l'assistance ne nouèrent pas les tripes de Perrine, pas plus que l'évocation de ce qu'il avait fait.
« Ils avaient abattu un de mes amis, et ils entendaient me faire subir le même sort. Pour faire court, j'ai vu rouge, et ça s'est mal terminé pour eux. »
« Une réaction qui peut se comprendre. »
admit Jack. Même quand les Trollocs rôdaient sur le territoire, les gens de Deux-Rivières n'étaient pas habitués à tuer. Quelques années plus tôt, une femme avait assassiné son mari parce qu'elle voulait épouser un autre type. C'était la dernière mort violente dont Perrine avait entendu parler, avant l'arrivée des Trollocs.
« Les fils de la lumière, »
intervint Vérine,
« sont très doués pour semer la zizanie entre des gens qui vivent ensemble depuis toujours. »
Tous les fermiers regardèrent la Aes Sedai, puis certains hochèrent la tête.
« Un certain Padan Fain est avec eux, »
dit Perrine.
« Le colporteur. »
« C'est ce qu'on dit, »
répondit Jack.
« Mais il aurait changé de nom. »
« Ordate. Mais qu'il se nomme Fain ou Ordate, lui, il est un suppôt des ténèbres. Il a avoué avoir conduit les Trollocs jusqu'ici l'année dernière. Et voilà qu'il ferait avec les Capes Blanches. »«
Des accusations gratuites, »
dit Adine Lewin.
« On peut prétendre ça de n'importe qui. »«
Qui croyez-vous ? »
demanda Thomas.
« Des gens qui sont arrivés ici il y a quelques semaines pour arrêter vos amis et brûler leur ferme ? Ou un jeune homme qui a grandi ici ?»«
Je ne suis pas un suppôt des ténèbres, Maître Alcine, »
assura Perrine.
Mais si vous me demandez de partir, je ne m'incrusterai pas.
Non !
Lança Elisa. Elle regarda son mari avec insistance, puis posa sur Adine des yeux flamboyants de colère qui lui coupèrent instantanément la chic.
Non, vous êtes les bienvenus aussi longtemps qu'il vous plaira de rester.
Jack hésita, puis il approuva du chef. Elisa approcha de Perrine et lui posa une main sur l'épaule.
« Toutes nos condoléances, »
dit-elle.
« Ton père était un brave homme, et ta mère, mon amie, une femme de bien. Elle aurait voulu que tu restes avec nous, Perrine. Les capes blanches s'aventurent rarement jusqu'ici, et si ça arrivait, nos sentinelles nous préviendraient assez tôt pour que tu te caches. Ici, tu seras en sécurité. »
C'était sincère. Quand Perrine regarda Jack Alsine, celui-ci hocha de nouveau la tête.
« Merci, »
dit le jeune homme, la gorge nouée.
« Mais j'ai des choses à faire, des problèmes à régler. »«
Bien sûr. Fais en sorte de ne pas récolter de blessures en accomplissant ton devoir. En attendant, je ne vais pas te laisser repartir avec le ventre vide. »
La maison ne comptant pas assez de tables pour une telle assistance, on distribua des bols de ragoût d'agneau, avec la consigne de ne pas en renverser, et des tranches de pain. Chacun mangea là où il était et sans se plaindre. Avant la fin du repas, un jeune garçon très mince, ses mains dépassant à peine des manches trop longues de sa veste, entra en trombe en brandissant un arc plus grand que lui. Perrine crut reconnaître Win Lewin, mais il n'en aurait pas mis sa main au feu, car les garçons grandissaient vite à ces âges-là.
« Le seigneur Luc !»
annonça le petit, tout excité.
« Le seigneur Luc est là !»